Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 19h.
Tout le monde porte un masque, hein, c'est obligatoire à Wuhan. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on garde quelques mètres de précaution.
Mesure drastique en Chine, 18 millions d'habitants à l'isolement. Et ce soir, le coronavirus fait une première victime loin du foyer de l'épidémie.
La France annonce un test de dépistage dans les hôpitaux.
Emmanuel Macron en Israël dit souhaiter un procès pour le meurtre de Sarah Halimi, tuée parce qu'elle était juive. Le suspect avait été jugé irresponsable.
Dans ce journal également, des explosifs retrouvés au domicile d'un homme radicalisé à Épinal.
Et puis, comment protéger ses données personnelles sur Internet? Bientôt, nous aurons une identité numérique. Explication à la fin du journal.
Anissa, la météo avec vous?
Ça se calme demain dans les Pyrénées-Orientales et sur l'Aude. Attention, l'Aude reste en vigilance rouge, crue et inondation. Il pleut sur le sud-est. Partout ailleurs, c'est assez agréable. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Les experts français ont travaillé en un temps record. D'ici la semaine prochaine, le gouvernement annonce que la majeure partie des hôpitaux français auront à leur disposition un test permettant de diagnostiquer rapidement, en quelques heures, le coronavirus qui préoccupe bien au-delà des frontières de la Chine.
La Chine qui a pris des mesures drastiques justement pour tenter de contenir l'épidémie. Hein,
à Pékin,
stade.
La cité interdite est fermée. Les festivités du Nouvel An chinois sont annulées. Aujourd'hui, pour la première fois, un malade est mort dans une province qui jouxte de la capitale, loin donc du berceau de l'épidémie, la ville de Wuhan, qui vit désormais à l'isolement, de même que sa voisine. 18 millions d'habitants coupés du monde, plus d'avions ni de trains, péage autoroutier fermé. Jean-Sébastien Soldaini a pu joindre sur place un médecin français, Philippe Klein.
Wuhan est coupé du monde, donc forcément la réaction des gens ici a changé et on voit l'inquiétude augmenter, notamment tout simplement dans les rapports humains, puisque maintenant... Tout le monde porte un masque, hein, c'est obligatoire à Wuhan. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on garde quelques mètres de précaution. On a tendance à vouloir se serrer la main de façon spontanée, mais on ne le fait pas, on se retient. La ville est calme. Il y a forcément une angoisse et un début de psychose, mais le propre de l'homme, c'est quand même l'instinct de survie, mais c'est aussi de positiver. Donc les gens continuent forcément de vivre. Ce matin, on est allé faire des courses en ayant appris la quarantaine. Alors les magasins, bien sûr, sont pris d'assaut. Les gens se posent des questions et font des réserves. Mais il n'y a pas de mouvement de panique.
Témoignage recueilli par Jean-Sébastien Soldaini. Et ce soir, l'Organisation mondiale de la santé est toujours réunie sur cette question.
L'autre grand titre à la une ce soir, c'est l'émotion à Yad Vashem. Une quarantaine de chefs d'État réunis au mémorial de la Shoah à Jérusalem pour commémorer les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau.
Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahou, le vice-président américain Mike Pence, Emmanuel Macron aussi, qui a redit sa détermination à lutter contre l'antisémitisme et qui, un peu plus tôt, devant la communauté française, a commenté une décision de justice. Il a dit souhaiter un procès pour le meurtre de Sarah Halimi, tuée parce qu'elle était juive en 2017. Procès qui, à ce stade, n'aura pas lieu car le suspect a été jugé irresponsable. Écoutez le président de la République.
D'abord, que la justice française a reconnu le caractère antisémite de ce crime. Il est reconnu. Et ce caractère antisémite, personne ne peut le remettre en cause. Ensuite, la justice doit avoir un lieu. Et je sais la demande de procès qui doit se tenir. La question de la responsabilité pénale est l'affaire des juges. La question de l'antisémitisme est celle de la République. Mais ce que nous apprend ce qui vient de se passer, c'est que même si à la fin, le juge devait décider que la responsabilité pénale n'est pas là, le besoin de procès, lui, est là.
Emmanuel Macron en Israël et ce soir, voici la réponse de Céline Parizeau de l'Union syndicale des magistrats.
Il n'appartient clairement pas au président de la République de se prononcer sur une procédure pénale en cours. La chambre de l'instruction, donc c'est-à-dire trois magistrats qui statuent ensemble après une audience, après avoir entendu les parties, les experts, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'aller plus loin et de faire un procès dans cette affaire, dès lors que le suspect est pénalement irresponsable. Aujourd'hui, le président se permet finalement de critiquer cette décision, puisqu'il estime qu'il faut un procès. Ce n'est clairement pas son rôle. Le président de la République, dans l'organisation de nos institutions est censée être le garant de l'indépendance de la justice et certainement pas lui donner des directives.
Céline Parizeau de l'USM, elle est la présidente de l'USM, le premier syndicat de magistrats.
En France, le retour des perturbations dans les transports, 7e journée d'action nationale, demain, au moment où la réforme des retraites arrive. en Conseil des ministres.
Trafic perturbé à la RATP sur 12 lignes de métro. 60 à 70% des TER et Transiliens sont maintenus. Trafic normal sur le réseau TGV. Puis autre annonce ce soir, ce sera l'étape d'après, après le Conseil des ministres. La conférence de financement sur cette réforme des retraites commencera le 30 janvier, annonce d'Edouard Philippe ce soir dans un entretien donné au journal La Croix.
Dans le sud-ouest, les pluies de la tempête Gloria, eh bien, elles se déportent vers l'Hérault. La décrue est amorcée, vigilance rouge levée, désormais dans les Pyrénées-Orientales.
Mais attention, elle est toutefois maintenue sur le département de l'Aude. Elle est levée ce soir à nouveau.
Donc, à cette fois, voilà, orange. Comme ça,
l'Aude est en orange. Voilà.
Merci Anissa, on vous retrouve évidemment à la fin du journal pour la météo complète. De nouveaux éléments à présent dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin en 2003. Michel Fourniret demande à être considéré comme coupable, c'est ce qu'a dit le tueur en série lors de sa dernière audition fin novembre. Demain, son ex-épouse Monique Olivier, qui a fragilisé son alibi, on s'en souvient, doit être à nouveau interrogée.
Une découverte inquiétante à Épinal, maintenant dans les Vosges. Des explosifs ont été retrouvés au domicile d'un homme radicalisé.
Bonsoir Alain Acco.
Bonsoir.
Le parquet antiterroriste s'est saisi de cette enquête.
Oui, au départ, pourtant, il s'agissait d'une simple visite domiciliaire, ce qu'on appelait avant une perquisition administrative, pour vérifier un vague signalement. Les policiers de renseignement territorial avaient entendu dire qu'un habitant d'Épinal s'était vanté, il y a quelques semaines, de savoir manipuler des explosifs. Or, cet homme de 48 ans est fiché S pour radicalisation. Il est connu depuis longtemps, notamment pour ses relations avec le groupuscule Forza Analiza qui a été dissous en 2012. Il est sorti de prison il y a environ 6 mois et il était incarcéré dans une affaire de trafic de drogue. Quand les policiers du commissariat d'Épinal ont débarqué chez lui, le suspect n'était pas là. Il a été arrêté quelques heures plus tard sur son fauteuil roulant car il est handicapé. Sa compagne a aussi été placée en garde à vue car dans la cave de leur immeuble, on a trouvé des engins explosifs artisanaux prêts à l'emploi, nous dit-on. Le parquet national antiterroriste a donc confié l'enquête ce soir à la DGSI, à l'ASDAT et à la police judiciaire de Strasbourg.
Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1, merci.
Comment protéger nos données personnelles sur Internet, hein ? Vous êtes nombreux à vous poser régulièrement la question, notamment lorsqu'on remplit toutes sortes de formulaires.
Bonsoir Aude Leroy. Une solution s'appelle l'identité numérique. D'ailleurs, le groupe La Poste est le premier à recevoir le feu vert de l'ANSSI, qui est l'autorité des systèmes d'information. C'est quoi cette identité numérique et ça fonctionne comment ?
Ben c'est assez simple, hein, parce qu'à la maison ou comme moi au bureau, vous vous préinscrivez sur le site de La Poste. Alors, il suffit d'un mail, d'un smartphone et d'une pièce d'identité. Ça prend à peu près 20 minutes. Et puis après, vous rencontrez physiquement un facteur, que ce soit chez vous ou dans un bureau de poste, comme ici avec Alassane Diallo, qui est postier à Issy-les-Moulineaux.
Je vais vous demander votre pièce d'identité.
Là, vous êtes sur votre propre smartphone.
Donc, nous, on utilise des smartphones pour finaliser l'identité numérique. On peut aussi le faire au guichet directement.
Alors désormais, je n'ai plus qu'un seul identifiant et un seul mot de passe pour me connecter sur aujourd'hui 700 sites administratifs, notamment payer mes impôts, suivre mes remboursements de sécurité sociale ou demain, pourquoi pas, inscrire mon enfant à l'école. Alors au final, on gagne plus de 5 minutes à chaque connexion, mais aussi on gagne de la mémoire, explique Candice Dauge, la directrice de l'identité numérique à La Poste.
À chaque fois, on crée un compte donc avec un identifiant, un mot de passe, on en a en moyenne 265. Et à chaque fois, on scanne des pièces et on réalise un certain nombre de démarches. Avec l'identité numérique, on saute à peu près 7 à 14 étapes dans son parcours d'inscription.
Et pour accéder donc au site internet qui vous intéresse, il suffit de télécharger l'application Identité numérique sur votre smartphone.
Voilà, comme ça, il n'y a plus qu'un mot de passe tout, fait tout avec.
Exactement,
bon, faut pas le perdre,
vous avez
faut
testé, on a tous les éléments. Merci.
Non, mais il n'y en a plus qu'un souvenir. Donc
ouais.
C'est bon.
Merci, les préciseurs d'Aude Leroy. Merci beaucoup.
Merci Sébastien Krebs.